Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes, 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou, et puis 19h20, un grand débat ce soir sur la passion des Français pour l'histoire et ses châteaux. De plus en plus de particuliers, on les entendra, décident d'investir toutes leurs économies parfois pour s'offrir un morceau de patrimoine. Alors qui sont ces nouveaux châtelains qui font revivre notre histoire? On entendra leurs témoignages et on en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Belle soirée à vous.
L'Assemblée nationale s'empare de l'affaire Sarah Halimi. Deux députés proposent des exceptions au régime de l'irresponsabilité pénale en cas d'intoxication volontaire. On vous explique tout ça dès le début de ce journal.
30 ans de réclusion requis contre Willy Bardon pour l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Élodie Kulik. La culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute selon l'avocate générale.
Tous déconfinés, sauf les Landes. Dans ce département, le variant Delta préoccupe les autorités. Partout ailleurs, le taux d'incidence ne baisse plus, mais la vaccination repart.
Un thermomètre qui frôle les 50 degrés dans l'ouest du Canada. Les conséquences sont dramatiques. Plus d'une centaine de morts recensées ces dernières heures.
C'est le double effet qui se coule. La défaite des Bleus à l'Euro nous a brisé le cœur et elle fait très mal aux finances de la Fédération française.
Et puis le Tour de France, on verra que si Pogacar s'est imposé dans le contre-la-montre, pour d'autres, cette étape a été beaucoup, beaucoup plus compliquée.
Quant à la spectatrice à la pancarte, elle a été retrouvée, elle est en garde à vue.
La météo avec Anissa Haddadi, ça va mieux demain?
Oui, ça va mieux, ça y est, le soleil est enfin de retour. Nous allons gagner, même côté thermomètre, 3 à 4 degrés par endroit. C'est une parenthèse, il va falloir en profiter. La météo complète à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À la une donc cette proposition qui émane de plusieurs députés et qui fait directement suite à l'affaire Sarah Halimi. Vous savez, c'est cette femme juive rouée de coups et jetée par-dessus le balcon de son immeuble. Son meurtrier, en proie à une bouffée délirante, ne sera jamais jugé. L'affaire avait relancé le débat sur la responsabilité pénale.
Oui, un rapport parlementaire dévoilé aujourd'hui propose donc la création d'une infraction d'intoxication délibérée pour tenter de combler ce vide juridique. Expliquez-nous ça, Marion Dubreuil.
Eh bien, pas question de toucher à l'article sur l'irresponsabilité pénale, considérée comme un totem du code pénal. On ne juge pas les fous en France. En revanche, l'idée des députés est de créer une dérogation à son application. Dans le cas de l'affaire Halimi, les juges n'ont pas cherché à déterminer si c'était bien le cannabis que Kobili Traoré avait fumé la veille du meurtre qui avait provoqué sa bouffée délirante. Seul compter à l'abolition de son discernement au moment des faits. Les parlementaires veulent contourner ce problème. Ils proposent de créer une nouvelle infraction pour punir le fait de s'intoxiquer délibérément et de commettre ensuite une atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne. En clair, si un suspect consomme volontairement des drogues, trop d'alcool ou des médicaments et qu'il tue ensuite quelqu'un alors qu'il n'est plus maître de ses actes, il pourra au moins être tenu responsable de cette consommation de substances toxiques qui a mené au pire. Les députés proposent de retenir des peines atténuées, 20 ans de prison maximum par exemple pour un meurtre commis dans ces conditions. Encore faut-il établir avec certitude le lien entre une consommation de drogue et une abolition du discernement. Cela concernera très peu de cas, admet l'un des rapporteurs, Antoine Savigna. D'après nos informations, cette préconisation rejoint le projet de loi du ministre de la Justice, toujours à l'examen du Conseil d'État.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Il y aura un nouveau procès pour Patrick et Isabelle Balkany.
Oui, la Cour de cassation confirme la culpabilité de l'ancien maire de Levallois-Perret et de son épouse pour blanchiment de fraude fiscale avérée, mais les magistrats estiment que certaines peines ne sont pas adaptées, notamment la confiscation du moulin de Giverny dans l'Eure. En conséquence, un nouveau procès va donc avoir lieu, pas avant un an et demi.
Justice toujours avec le réquisitoire ce matin dans le procès Willy Bardon.
Oui, jugé pour l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Élodie Kulik en 2002 dans la Somme. Lionel Gougelot, au terme d'un long réquisitoire, l'avocat général a requis 30 ans de prison sans laisser aucune place au doute sur la culpabilité de l'accusé.
Non, effectivement, et comme lors du procès de première instance à Amiens, la magistrate qui porte l'accusation se dit convaincue que c'est bien la voix de Willy Bardon que l'on entend en arrière-plan des hurlements d'Élodie Kulik sur l'enregistrement de l'appel aux pompiers au moment de son agression, ce qui signe sa participation au crime. Il y a les témoignages de proches qui ont reconnu cette voix. Lui-même s'est reconnu sur la bande-son, assène la magistrate, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait le cas, puisque Bardon avait admis qu'il y avait une ressemblance, certes, tout en affirmant qu'il n'était pas sur la scène de l'agression. Mais peu importe pour la magistrate qui dépeint le portrait d'un homme au comportement sexuel qui lui donne le profil d'un agresseur. Alors cette réquisition de 30 ans de réclusion criminelle n'est finalement que logique, selon Didier Seban, l'avocat du papa d'Élodie.
Je ne crois pas qu'il y ait eu dans cette audience d'éléments qui aient pu faire changer le positionnement de chacun. Nous pensons que les preuves sont très largement suffisantes pour condamner Willy Bardon. La preuve vocale, bien sûr, on y est revenu très longuement. Et c'est ce qui va compter, je pense, dans le verdict des jurés.
Cet après-midi, les avocats de Willy Bardon ont insisté sur l'incertitude qu'il y a à faire coller une voix à un individu, surtout sur un enregistrement de mauvaise qualité. Devant la douleur de la famille d'Élodie, Stéphane Dacco demande au jury de ne pas se réfugier derrière la facilité de l'émotion. Et vous acquitterez Willy Bardon, conclut-il, parce qu'il est innocent.
Lionel Gougelot qui suit donc ce procès pour Europe 1.
La préfecture des Landes prolonge les restrictions sanitaires jusqu'au 6 juillet inclus dans le département en raison du variant Delta.
Partout ailleurs dans l'Hexagone, ce 30 juin marque la fin des jauges en intérieur, dans les bars, les restos, les cinés, les musées, les salles de sport, les piscines, les commerces. Bonne nouvelle en ce premier jour de solde, ils vont durer 4 semaines et les commerçants comptent casser les prix pour rattraper les pertes liées à la crise sanitaire.
Le taux d'incidence ne baisse plus depuis quelques jours en France, dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, mais bonne nouvelle, la vaccination, elle, s'accélère.
La vigilance reste absolue et nous avons des motifs de préoccupation. Le variant Delta progresse, il progresse même très rapidement. Il représentait environ 10% des contaminations la semaine dernière. C'est un niveau qui a doublé en moins d'une semaine. Face à ce constat, nous avons une arme contre le virus, c'est le vaccin. Il fonctionne et il montre d'excellents résultats, y compris sur le variant Delta. Aujourd'hui, le nombre de vaccinations quotidiennes se maintient à un niveau très élevé et après avoir marqué le pas depuis un certain temps, le nombre de prises de rendez-vous pour des premières injections est reparti à la hausse entre plus 10 et plus 20%. C'est une très bonne nouvelle que nous constatons depuis quelques jours. Cet été, grâce au vaccin, nous pouvons prendre une longueur d'avance sur le variant Delta. Chaque vaccination est une protection contre la quatrième vague. Chaque vaccination est un pas vers un retour durable à la vie d'avant. Chaque vaccination est une protection.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avec Hélène Terzian. Et même si les chiffres restent bons, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, prédit une reprise de l'épidémie à l'automne. Mais elle sera, dit-il, beaucoup moins importante que les précédentes.
Europe 1, Julien Bugier.
19h06, restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal. La canicule qui se poursuit au Canada, on en parlera, responsable du décès de plus d'une centaine de personnes.
Et puis à votre avis, combien l'élimination prématurée des Bleus à l'Euro a-t-elle fait perdre d'argent à la Fédération française ? Ça se compte en millions.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, la suite du journal et la situation extrêmement préoccupante donc à l'ouest du Canada, notamment dans la région de Vancouver, où depuis quelques jours, le thermomètre frôle les 50 degrés à l'ombre.
Une telle fournaise, c'est du jamais vu, hein, Jean-Gabriel Bourgeois. Le pays recense déjà d'ailleurs de nombreuses victimes, des décès qui sont directement liés à cette canicule.
Oui, 134 personnes sont décédées depuis vendredi dernier. Un dramatique bilan encore provisoire de cette vague de chaleur inédite selon les autorités. Des records de température. Les températures sont battues chaque jour depuis le week-end dernier. Hier, le mercure est monté jusqu'à 49,5 degrés. Fanny vit depuis 3 ans à Victoria, au sud de Vancouver. Difficile de trouver un peu de fraîcheur.
J'avais jamais connu ce type de chaleur. Jamais au-delà de 30 degrés. C'était assez inattendu, on va dire. On n'a pas eu trop le temps d'aller chercher une clim. Toute la chaleur, même en fermant les vitres, les volets, etc. Toute la chaleur rentrait quand même à l'intérieur. C'était une vraie fournaise. On était à un moment donné à 33, 34 degrés. À l'intérieur de la maison, on a été dans un mall, là, centre commercial, pour avoir un peu de climatisation au moins quelques heures.
Ce phénomène météo appelé dôme de chaleur est amplifié par le réchauffement climatique, expliquent les scientifiques. Du jamais vu depuis plus de 80 ans au Canada, le deuxième pays le plus froid au monde. Plusieurs villes ont ouvert des centres de rafraîchissement équipés de climatiseurs et de brumisateurs. Des distributions d'eau avec glaçons ont été organisées pour faire face à cette canicule extrême qui provoque également d'importants feux de forêt et qui pourrait persister encore quelques jours selon les services de la météo.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois.
Après l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro, la Fédération française fait les comptes et ça fait mal.
Et oui, Julien Froment, quitter la compétition aussi rapidement, c'est bien sûr une énorme déception sportive, mais c'est aussi un gros coup dur pour les finances de la FFF.
Oui, c'est une élimination qui coûte cher à plus d'un titre. Selon les dernières estimations, les Bleus stoppés en huitième de finale, c'est au minimum 8,5 millions d'euros en moins dans les caisses. Une fédération française de football qui a présenté d'ailleurs pour la première fois depuis 20 ans un budget prévisionnel déficitaire à hauteur de près de 6 millions d'euros. Un bilan économique guère reluisant, mais pas inquiétant pour l'économiste du sport, Pierre Rondeau.
À plus ou moins court terme, la fédération est dans le rouge pour la première fois depuis très longtemps, mais elle est dans le rouge parce qu'elle subit les crises conjoncturelles et les aléas sportifs, mais à plus ou moins long terme, elle va trouver des solutions de secours pour pouvoir échelonner cette dette et la répercuter dans le temps et garantir un budget solvable et à terme, peut-être on l'espère, à l'équilibre d'ici 2, 3, 4 saisons.
Et en attendant, il va falloir se serrer la ceinture, le contexte sanitaire est encore dégradé, pas sûr que les deux prochains matchs des Bleus à domicile en septembre à Strasbourg contre la Bosnie et à Lyon face à la Finlande puissent se jouer en jauge pleine. La FFF s'est elle aussi d'ailleurs lancée dans une cure d'austérité juste avant l'Euro, avec l'annonce d'un plan social au sein de l'instance qui prévoit le départ de 26 salariés.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, et on connaît le tableau complet des quarts de finale de cet Euro qui débute demain avec le choc Belgique-Italie et avec Suisse-Espagne. Et puis samedi, on suivra Danemark-République tchèque et Angleterre-Ukraine.
Allez, on va prendre des nouvelles évidemment du Tour de France maintenant.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Et c'était un contre-la-montre aujourd'hui en Mayenne avec la victoire de Pogacar. On vous retrouve en direct sur place, Axel May. Belle victoire donc du vainqueur du Tour de l'an dernier. En revanche, Axel, la plupart des favoris ont perdu aujourd'hui beaucoup de temps.
Oui, vous avez tout à fait bien résumé la situation, car loin d'être un spécialiste du contre-la-montre sur ce type de parcours, Tadej Pogacar a mis tout le monde d'accord. À plus de 50 km/h de moyenne, il remporte l'étape, disant à ses adversaires : le patron, c'est moi, je suis le vainqueur sortant de la grande boucle et je compte revêtir le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Un maillot que conserve de justesse Mathieu Van Der Poel, mais le petit-fils de Raymond Poulidor sait que la montagne aura raison de ses ambitions. Julien Alaphilippe, qui rétrograde à la 4e place du classement général, dit qu'il va se concentrer désormais sur les étapes. L'équatorien Richard Carapaz est 9e, Primoz Roglic, le Slovène 10e, tous deux ont plus de 1 minute 30 de retard sur Pogacar. Le Gallois Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour, est encore un peu plus loin, 12e à 1 minute 45. C'est déjà beaucoup de temps perdu alors que ni les Alpes ni les Pyrénées n'ont été franchis.
Alors Axel May, on a appris cet après-midi que la spectatrice, c'est l'info un peu hors sport mais du jour, qui avait fait chuter, on s'en souvient, samedi dernier de nombreux cyclistes avec sa pancarte, eh bien elle a été interpellée.
Oui, elle a été identifiée formellement de sources judiciaires. C'est une Française, même si la pancarte à l'origine de la chute gigantesque était écrite en allemand. Il y avait écrit « Allez papy, allez mamie ». Un appel à témoins avait été lancé. Marguerite Lefebvre a demandé à Marc Madiot, l'un des patrons d'équipe emblématique du peloton, à ce qu'il pensait de cette interpellation, de cette arrestation.
Le coup, là, il est marqué, c'est bon. Je pense qu'il faut la laisser réfléchir. Pour moi, les chutes, oui, la pancarte, ok, d'accord, c'est une chute. Mais ce n'est pas toutes les chutes. Donc, il faudrait pas résumer la situation des risques à une pauvre dame qui a mis une pancarte où il ne fallait pas. Voilà, c'est tout.
Voilà, et du côté de l'organisateur, ASO, on explique que la plainte était nécessaire pour éviter que des spectateurs à nouveau ne mettent en danger les coureurs.
Merci Axel May sur la route du Tour pour Europe 1.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci Isabelle Millon, on vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. La météo, alors comment ça va du côté de la météo ma chère Anissa? Bah, moins de pluie, plus de soleil pour demain, mais tout ça est une parenthèse enchantée.
Oui, bah, il va falloir en profiter demain si vous le pouvez. Vous pouvez ressortir les lunettes de soleil, en tout cas sur la moitié nord, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps le soleil. Alors demain matin, le temps sera brumeux sur toute la moitié nord du pays. Des nuages bas qui peuvent gêner la visibilité, mais au fil des heures, ces nuages vont se dissiper pour laisser place à bien plus d'éclaircies que ces derniers jours. Sur la moitié sud, toujours pas mal de soleil, le ciel s'éclaircit bien. Au bord de la Méditerranée, il fera très beau, mais le vent d'ouest souffle toujours et puis le Mistral se lève aussi demain. Côté température, 10 à 21 degrés le matin, c'est stationnaire. Dans l'après-midi, on va gagner 3 à 4 degrés par-ci par-là. 19 à Lille, aujourd'hui on avait seulement 16. 22 à Biarritz et Strasbourg, 24 pour Paris et Rennes, 26 à Nice et Lyon et 32 degrés demain après-midi. Anime.
Merci ma chère Anissa, vous revenez nous voir demain
avec
à partir
plaisir.
De 18h évidemment. Vous restez avec nous 19h14 dans quelques secondes, le débat du Club des Idées sur les nouveaux châtelains français. Vous verrez, c'est passionnant d'avoir la carte blanche avec ce soir l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous allez nous parler, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de réforme, oui. Pour cette dernière année de quinquennat du président Macron. On a beaucoup parlé de la réforme des retraites ces derniers jours. Vous vous dites, attention, il ne faut pas mener de grandes réformes économiques avant la présidentielle.
Oui, alors entendons-nous bien, moi je suis plutôt favorable à ces réformes. La réforme des retraites, évidemment, je suis parfaitement conscient du fait que la démographie nous impose de trouver un moyen d'augmenter la durée de cotisation et de partir en retraite plus tard. Je suis évidemment parfaitement conscient du fait que l'assurance chômage n'est pas bien connectée à notre formation professionnelle et qu'il y a encore des réformes à faire. Donc je suis favorable à ces réformes, ce que l'on appelle des réformes structurelles. Mais justement, comme j'y suis favorable, je pense qu'il faut les faire bien. Et les faire bien, c'est fixer les objectifs de ces réformes, c'est en discuter avec les partenaires sociaux, parce que ce sont des réformes qui exigent énormément de capital politique. Oui. On le voit bien avec les réformes des retraites. Ce sont des réformes qui sont toujours compliquées. Il faut les faire, et donc il faut en discuter, il faut les faire bien.
Mais pourquoi ne pas les faire alors? C'est à cause du calendrier politique selon vous?
Mais non, en fait, c'est parce que nous sommes encore en crise et que la priorité, c'est sortir de la crise. Voilà, pour moi, les deux mots qui doivent guider la totalité de l'action publique ces prochaines semaines et ces prochains mois, ces deux mots, ce sont « en sortir ».
Oui.
Et ça se fait en trois étapes. D'abord,
et ne pas freiner la reprise.
On doit... Mais oui, mais écoutez, Julien, je l'ai répété tout au long de l'année à votre antenne, la reprise économique, elle interviendra quand nous serons sortis de cette crise sanitaire. Et donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Un, on vaccine. Deux, on relance. Et trois, on réforme. Et au fond, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un gouvernement? Et qu'est-ce qui va permettre d'assurer la pérennité de la reprise économique que l'on connaît aujourd'hui parce que la situation sanitaire s'est améliorée? Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre des mesures qui fassent en sorte que nous soyons en septembre dans une situation sanitaire où on sera certain que le secteur hospitalier ne sera pas engorgé. Ça passe notamment par des mesures qui incitent davantage de nos concitoyens à se faire vacciner. D'ailleurs, de mon point de vue, ça peut être des incitations
des
un petit peu viriles. Voilà.
Oui.
Le reste est important. Les réformes, c'est important. Mais d'une certaine façon, c'est tellement important qu'elles peuvent attendre. Mmh. On n'est pas à six mois près. La priorité, je le répète, c'est d'en sortir.
Bien.
Parce qu'on n'en peut plus. Et c'est ce que demande l'économie.
Merci, message entendu. Merci, mon cher
merci,
Nicolas
Julien.
Bougeot. Merci à vous.
Europe 1. Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h17. Dans quelques secondes, on s'intéresse à l'histoire de France qui nous passionne, si bien que beaucoup de particuliers investissent désormais dans des châteaux pour leur redonner une seconde jeunesse. On en parle dans quelques secondes avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le Club des Idées, on va parler de cette passion qu'ont les Français pour l'histoire. C'est un phénomène nouveau, en tout cas qui prend de l'ampleur, des particuliers qui se lancent dans la sauvegarde du patrimoine en redonnant vie à des châteaux ou des abbayes, en créant des spectacles historiques, un peu sur le modèle du Puy du Fou. Alors le mécénat privé sauvera-t-il notre patrimoine qui demande, c'est vrai, des sommes considérables pour être entretenu? À quelques jours des vacances d'été, on va vous dévoiler ces sites incontournables qui ont retrouvé d'une certaine manière une seconde jeunesse. On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Christophe Bottineau.
Bonsoir.
Vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Sacrée responsabilité. On parlera de votre métier dans quelques secondes. Bonsoir Mylène Sultan.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée histoire et patrimoine, fondatrice de Mirabilibus.
Très bien.
Les clés du patrimoine.
Bien.
Je l'ai bien
voilà,
dit, hein. C'est pas facile
fait,
à
oui.
dire. Michel Guyot est également avec nous par téléphone. Bonsoir Michel. Vous êtes propriétaire de plusieurs châteaux, dont celui, on va en parler, car c'est une immense réussite, de Saint-Fargeau. Et puis on retrouvera également Frédéric de la Nouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral, qui va ouvrir ses portes au public demain avec là encore un spectacle absolument somptueux. Christophe Bottineau, je commence avec vous. Êtes-vous d'accord pour dire, d'une certaine manière, que oui, il y a une passion des Français pour l'histoire et son patrimoine?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Et un indicateur très simple pour le voir, ce sont les journées du patrimoine, parce que c'était d'abord les journées du patrimoine, qui maintenant sont les journées européennes du patrimoine. Et chaque année,
c'est
on voit
immense.
Que c'est un succès croissant.
Il y a une prise de conscience qui s'est opérée, Mylène Sultan, depuis quelques années, sur le fait que ce patrimoine, il est parfois menacé et qu'il faut en prendre soin.
Oui, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience, mais il y a d'abord eu l'engouement des Français. C'est vrai que Christophe Bottineau parlait des journées du patrimoine. qui sont nés en 84, donc il y a déjà 36 ans, et qui ont un succès considérable. 12 millions de Français qui visitent les monuments en 2019. Je ne parle pas de 2020 parce que ça a été une édition évidemment tout à fait particulière. On se rend compte aussi que le patrimoine est en danger parce qu'il y a de plus en plus d'émissions, de reportages, oui. Et puis on a entendu...
On est sensibilisé, vous voulez dire.
Oui, on est de plus en plus sensibilisé, et je crois que précisément, la crise sanitaire nous a montré que finalement, on avait des choses merveilleuses tout près de chez soi.
C'est vrai.
Les Français ont dû rester en France pour la plupart, et c'est une bonne chose parce qu'ils ont redécouvert des châteaux, des musées, des grands lieux de patrimoine tout près, et il y a un engouement. C'est vrai que lorsque les lieux ont réouvert en mai, je parle du premier confinement, après le premier confinement, il y a eu vraiment un engouement et une grande joie de pouvoir entrer à nouveau dans ces lieux de patrimoine. Les châtelains ont tous été unanimes à le dire.
Michel Guyon, on va parler de votre histoire, évidemment, 40 ans d'histoire maintenant autour des châteaux, avec Saint-Fargeau notamment. D'abord, peut-être un aspect peut-être aussi philosophique de ce rapport charnel des Français à l'histoire, à leur patrimoine. Dans la période troublée que l'on vit avec tant d'incertitudes, est-ce que vous diriez qu'on se raccroche à notre histoire ?
Ben écoutez, oui, j'en suis profondément convaincu parce que quand on voit les visiteurs arriver, quelles que soient leurs conditions sociales, il y a un profond sentiment d'émerveillement, des questionnements. On sent une véritable curiosité,
On a perdu Michel Guyon, on va le retrouver dans quelques secondes. Les chiffres sont très impressionnants parce qu'évidemment, quand on parle des châteaux, de ce patrimoine magique qui fait le notre beau pays qu'est la France, on pense à Chambord, on pense à Cheverny, on pense à Chenonceau, on pense à Versailles, on pense à Falaise, on pense à Gisors, mais il y en a des milliers d'autres. On estime par exemple à 45 000, je parle sous votre contrôle Christophe Bottineau, à 45 000 le nombre de châteaux en France. Ça veut dire un peu plus d'un château pour chacune des 36 000 communes françaises.
Alors, 45 000, je ne sais pas si c'est le nombre exact
les
petits et les grands châteaux, oui. Vous avez tout à fait raison. 45 000, c'est le nombre d'édifices protégés au titre des monuments historiques en France.
Bien.
Alors,
mais ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Dedans, il y a deux catégories. Les gens connaissent les édifices qui sont classés au titre des monuments historiques, les plus connus. C'est 14 000 édifices, sachant que dedans, il y a également les calvaires bretons, des croix de chemin à Lorraine, des grottes préhistoriques, etc.
Et 85% de tous ces monuments sont aux mains de particuliers.
Exactement.
C'est incroyable, ça.
Exactement, parce qu'il y a cet attachement... cette notion
qui
de
prend le
de
plus
racine.
Soin de ce patrimoine, ce sont d'abord les Français, d'abord les propriétaires.
Ah mais bien sûr, c'est sur le territoire que se joue tout cela. Ce sont les propriétaires et ce sont aussi, il faut le dire, les maires parfois dans de toutes petites communes, j'ai travaillé dans des communes de 200 habitants, 250 habitants, où le maire fait absolument tout jusqu'aux photocopies et au compte rendu de ses propres réunions. Les maires sont extrêmement attachés à leur patrimoine parce que c'est l'identité de leur village. Et je pense que tout cela nous vient de la mondialisation. La mondialisation, c'est l'uniformisation par certains côtés. En tous les cas, on est rentré dans un monde post-moderne.
Oui.
J'utilise un mot un peu pédant, mais tout le monde est bien d'accord là-dessus. Dans la modernité, il y a un élément... clé qui nous l'a décrit de façon très simple, c'était le principe de Novotel. Les principes des Novotel, c'était d'avoir toujours le même hôtel partout à travers le monde. Votre chambre était une chambre moderne là où vous habitiez, et partout où vous alliez, vous aviez une chambre moderne qui était un standard uniforme. Et bien maintenant, on est rentré dans un monde qui rejette complètement cette approche.
Qui veut des expériences.
Exactement.
Qui veut de la singularité.
Lorsqu'on est à Paris, on veut être à Paris, dans la culture parisienne, et quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas d'une dimension élitiste.
Oui.
Il s'agit de trouver des lieux qui ont une âme, qui ont une poésie, qui ont une identité propre. Lorsque vous êtes à Tokyo, à Marrakech, vous n'êtes pas à Paris.
Bien, on a retrouvé Michel Guyon, on va le retrouver juste après la pause, et on va revenir sur son histoire, son incroyable histoire, et la manière dont il s'est emparé aussi d'une partie de ce patrimoine français. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le Club des Idées ce soir et on continue de parler de cette passion qu'ont les Français pour l'histoire. On est en ligne donc avec Michel Guyot, propriétaire de plusieurs châteaux, dont celui de Saint-Fargeau. Michel Guyot, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre histoire, parce que pour vous, la vie de château, c'est une histoire de famille. C'est avec votre frère Jacques que vous vous êtes lancé dans l'aventure il y a maintenant 40 ans. Vous êtes un passionné de vieilles pierres, on peut dire ça ?
Ben, complètement, c'était une véritable passion qui correspondait aussi à ma formation. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts et les promenades familiales quand nous étions enfants, c'était les incontournables châteaux abbayes qui nous barbaient profondément. Mais qui, on dit que l'enfant c'est le père de l'homme, mais c'est revenu à 100 à l'heure et ça nous avait marqué profondément à tel point que on n'envisageait pas la vie autrement que dans la restauration d'un château.
Et alors ce coup de cœur, il a lieu en 79, hein, coup de cœur à la télévision. Vous voyez une émission dans laquelle apparaît le château de Saint-Fargeau, c'est le flash, et vous dites on va l'acheter, vous n'avez pas un sou, et vous arrivez à trouver le million de francs, à l'époque ce sont des francs, pour vous offrir ce château qui est en ruine. Hein.
Il n'est pas ruiné, il est abandonné. Mais comme c'est un des plus grands châteaux de France, il y a 2 hectares de toiture, personne n'en voulait, ni l'État, ni les collectivités territoriales. Et en fait, nous, on avait repris un petit château 19e en Sologne, et on cherchait quelque chose qui ait de la force, du caractère, hein, qui soit classé monument historique. Et puis, on est donc arrivé à Saint-Fargeau, timidement. On a visité, on n'avait pas un copec en poche, mais avec un petit coup de bluff, tous les banquiers s'émerveillent et acceptent de délier les cordons de la bourse.
Formidable.
Voilà. Et donc ça a été très vite.
Et ça a été un succès incroyable parce que vous avez eu la bonne idée de monter un spectacle pour financer ensuite tout ça avec des centaines de bénévoles qui nous replongent dans la grande histoire du château. Spectacle qui fête cette année, je le précise, ses 40 ans. On revit en somme 1000 ans d'histoire en direct en 2 heures de temps, grâce aussi évidemment maintenant à la technologie 3D. C'est vraiment un show incroyable.
Ben oui, c'était indispensable parce que le problème, c'est que, vous savez, la législation sur les monuments historiques dit que le propriétaire ne peut pas laisser sa propriété en déshérence. Mmh. Il doit, avec la collaboration de la DRAC, de l'architecte en chef du patrimoine, effectuer des travaux d'entretien. Et ça coûte très, très, très cher. Et donc, il nous fallait trouver un moyen pour faire entrer de l'argent. Et grâce aux visites et aux spectacles, aujourd'hui, c'est 800 bénévoles, une 60aine de cavaliers. On retrace à 100 à l'heure l'histoire de Saint-Fargeau et de la région. Ça nous amène 40 000 personnes, en gros, tous les ans. Et c'est avec ça qu'on a refait la totalité des toitures et qu'on entretient ce Saint-Fargeau, ses dépendances et un grand parc entièrement classé de 120 hectares.
Bon, bravo à vous. C'est vraiment une initiative absolument formidable. Et puis, on parlera de votre famille, parce que l'histoire n'est pas finie, il y a plein d'autres projets qui sont en cours. Et puis il y a Guédelon, évidemment, le château qui a été lancé en 97, me semble-t-il, qu'on bâtit de ses mains et qui sera terminé normalement en 2023.
Voilà, ça c'était un vieux rêve d'enfance. Nous avons fait ça avec Marilyn Martin. L'idée c'était en fait de partir ex nihilo dans un terrain forestier, se mettre dans les pas des bâtisseurs il y a 8 siècles. Voilà, et d'essayer de comprendre comment se construisait un château, comment il s'épanouissait et de
donc
quelle manière.
Vous construisez le château avec des artisans comme au temps du roi Philippe Auguste, et vous avez fait appel à des professionnels. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez retrouvé les parchemins d'antan qui livrent les procédés de fabrication. Tout est fait comme à l'époque, en somme.
Ben, écoutez, Guédelon s'est fait avec une équipe de scientifiques qui nous ont guidés, parce qu'on n'est pas la science infuse. Et ces scientifiques, qui sont de grands castellologues, des gens qui sont spécialisés dans l'archéologie médiévale, nous ont justement fourni les documents, les recherches, les études qui avaient été faites pour nous permettre d'avancer avec justesse.
Bien. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous et de partager cette expérience. Je vous salue parce qu'on a un autre invité, mystère, qui avait envie d'être avec nous ce soir, c'est Stéphane Bern. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
Ah, ça y est, on vous entend. Formidable. Merci de prendre quelques instants pour participer à cette émission. Mais je sais que la sauvegarde du patrimoine, c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez
bien ?
Oui,
Stéphane. Stéphane, allez-y. Livrez-nous votre amour pour ce patrimoine que vous défendez. Je vous donne la parole quelques instants.
Écoutez, pour moi, le patrimoine, Pour moi, le patrimoine, c'est à la fois de l'histoire, mais de l'histoire et de l'art et de la beauté, de la culture dans la proximité. N'importe qui près de chez soi a une vieille pierre, un lavoir, une fontaine qui raconte l'histoire d'un village. Et c'est de l'identité qui n'est pas hystérisée, puisque c'est de l'identité pour tous les villageois. C'est de l'histoire, c'est de la culture, ce sont nos racines et c'est porteur de convivialité dans les villages. Et je le vois partout dans les villages de France où un lavoir, une fontaine, un pont réconcilie les mémoires et rassemble de façon intergénérationnelle aussi, parce que les jeunes et les moins jeunes se réunissent pour travailler ensemble, pour sauvegarder et préserver ce patrimoine.
Bien, et vous avez lancé évidemment le loto du patrimoine en 2018, qui a déjà rapporté en 3 ans 72 millions d'euros, qui ont permis la restauration de 100 sites en France, et j'imagine que vous en êtes sacrément fier, ça, mon cher Stéphane.
Écoutez, oui, il y en a 182 autres qui sont en cours de restauration. Et puis, évidemment, ça c'est l'argent qui a été récolté directement, la part de l'État qui revient au patrimoine. Mais au total, c'est 130 millions d'euros qui, grâce à la générosité des Français, ont permis de sauver des pans entiers de notre patrimoine. Et on continue, puisqu'on a lancé la 4e année du loto du patrimoine. Les tickets de grattage seront en vente au mois de septembre. Et j'espère défendre et continuer comme ça à porter... la voix de ces... Il y a évidemment les grands châteaux comme Saint-Fargeau, mais il y a aussi ce petit patrimoine de proximité, ce patrimoine de nos villages que j'aime tant et qui fait la fierté de nos, des villageois, évidemment.
Bien, merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé
merci, Julien.
Votre
merci
optimisme
à vous.
Et vos initiatives dans Europe Soir avec nous dans le Club des Idées. Mylène Sultan, je reviens à vous, vous êtes journaliste spécialisée histoire et patrimoine. Il y a aussi une nouvelle tendance qu'on observe, alors c'est peut-être les conséquences d'une certaine manière de la crise du Covid, ça devient abordable aujourd'hui de s'acheter un château, un petit château, un petit manoir. J'ai vu des offres là dans un papier qui est sorti aujourd'hui, 250 000 euros, alors il y a pas mal de rénovations, 400 000 euros, ça devient acceptable et abordable pour le commun des mortels. Ça reste cher, mais ça devient possible.
Oui, mais c'est surtout qu'il faut l'entretenir, le château, parce que
c'est la question que j'allais vous poser.
Bien beau d'acheter un château 250 000 euros, évidemment c'est même pas le prix d'un deux pièces à Paris, donc on peut en être très heureux, mais il faut l'entretenir et lorsque la toiture s'effondre, lorsqu'il y a des fuites d'eau, enfin, c'est un chantier permanent et Christophe Bottineau peut abonder en ce sens.
Il y a un nouveau marché aujourd'hui, colossal. Christophe Bottineau. Il y a les nouveaux châtelains qui sont des urbains qui sont en train de se diriger, comme on l'a beaucoup vu pendant la crise du Covid, en milieu rural et qui ont envie de s'installer là.
Ah oui, très, très clairement, je pense qu'il y a un marché qui va s'ouvrir. On l'a vu, et comme vous le rappelez très justement, avec la crise du Covid, beaucoup de gens sont partis vers les campagnes et souhaitent y rester. Ils y ont découvert une qualité de vie et beaucoup de Parisiens. Mmh. D'ailleurs, il y a très peu de vrais Parisiens.
Oui.
Donc, beaucoup de Parisiens sont revenus vers leurs racines, vers des cadres de vie beaucoup plus agréables et souhaitent s'y ancrer et vont sûrement porter leur regard sur le patrimoine. Mais comme vous le disiez très justement, acheter, c'est une chose.
Oui, entretenir,
c'en est une autre.
Oui.
C'est un sacerdoce.
Yves Lecoq, qui a plusieurs châteaux, je crois, dit toujours une vie de château, c'est une vie de travaux. On
c'est
est
vrai.
En permanence en il travaux.
A, quoi, il a entièrement raison. Mais c'est fondamental, ce que vous venez de dire, c'est une vie de travaux. On vient de terminer l'hôtel de la Marine.
Oui.
Alors, évidemment, ce n'est pas
magnifique,
le château de Monsieur
la Concorde.
Tout le monde. Mais c'est surtout que pendant cette période où tout le monde était en travail à distance, dématérialisé, sans se voir. Ce chantier, ça a été au contraire, sans qu'il y ait le moindre cas de Covid sur le chantier, la célébration de l'art de la main.
Et franchement, le résultat est absolument magnifique. Bravo aux équipes et bravo à vous. 19h39, on marque une nouvelle pause. On sera avec Frédéric Delanouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral. Il nous parlera de ce spectacle qu'il lance à partir de demain. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le Club des Idées suite, 19h40, on continue de parler de cette passion qu'ont les Français pour l'histoire et son patrimoine et le sauvegarder. On est en ligne, je le disais, avec Frédéric Delanouvelle. Bonsoir, vous êtes directeur adjoint du Rocher Mistral, qui donc
Bonsoir.
À partir de demain lancera une immersion absolument inédite dans l'histoire et la culture de la Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet ?
Écoutez, avec plaisir, oui, vous avez raison. Demain, on ouvre ce site au public. Le château de la Barbin, c'est le plus vieux château de Provence. Il a 1000 ans et il a été entièrement restauré pour l'occasion, pour ce parc provençal Rocher Mistral qui ouvre demain et qui proposera dès son ouverture 7 spectacles, 5 en journée et 2 en soirée. L'objectif, c'est évidemment de faire revivre ce patrimoine dont vous parliez encore il y a quelques minutes, oui. Parce que ce château millénaire avait besoin d'une restauration. Elle a été en grande partie commencée cette année, il a été entièrement mis hors d'eau. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire rayonner à travers ce patrimoine l'histoire de la Provence que ce château a vu passer pendant 1000 ans.
Bien, c'est un monument du patrimoine français. Est-ce que cette volonté de l'ouvrir au public et d'organiser ces spectacles qui s'annoncent, j'ai lu quelques articles qui s'annoncent vraiment grandioses, est-ce que c'est une façon aussi de financer l'entretien et les travaux que vous avez engagés ?
Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a deux volets. Comme vous le disiez tout à l'heure, le patrimoine, ça coûte très cher à entretenir. Mmh. Ici, c'est du patrimoine privé. Alors bien sûr, l'État est aux côtés des propriétaires privés pour aider dans ces restaurations. Mais si acheter un château peut aujourd'hui être envisageable, eh bien son entretien coûte une fortune. Donc il est nécessaire de trouver un moyen économique viable. Ça, c'est vrai que le Rocher Mistral, les spectacles historiques proposés aux visiteurs, c'est un moyen de faire durer ce monument. Mais c'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est de donner vie à ces pierres. Parce que la pierre, c'est beau, mais ça suffit pas. La pierre, ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire, ça raconte des personnages. Et dans ce château, par exemple, vous avez le roi René d'Anjou qui a été propriétaire au XVe siècle. Vous avez la famille Forbin qui a énormément joué dans l'histoire de la Provence, qui a participé notamment au rattachement de la Provence au Royaume de France. Et donc ça, il faut le raconter. Il n'y a pas mieux que le patrimoine pour raconter aux Français leur histoire.
C'est le plus ancien château de Provence, c'est cela ?
C'est le plus ancien château de Provence connu. On en trouve la première trace en 1064 dans les archives des moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Il était déjà noté comme castrum, donc château. Et donc c'est un château qui a une histoire très forte. Jusqu'à aujourd'hui encore, il est construit sur son rocher. C'est pour ça que le parc qui ouvre s'appelle le Rocher Mistral, parce qu'il est sur un piton rocheux. Et puis le Mistral, évidemment, en référence au vent et au célèbre poète Frédéric Mistral.
Bien, et on entend un peu le vent derrière vous. Bonne chance pour cette grande aventure, le Rocher Mistral qui ouvre son spectacle à partir de demain. Merci infiniment Frédéric de la Nouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. On disait juste avant la pause, Mylène Sultan, ça coûte cher d'entretenir un château ou un petit bout de notre patrimoine, quel qu'il soit. Je regardais les chiffres. On trouve des très belles bâtisses à retaper à moins de 400 000 euros, mais après, il y a tout l'entretien.
Bien sûr,
il y a
bien
tout
sûr,
l'entretien. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros par an entre le jardin, les travaux.
C'est très peu, 20 000 euros par an.
C'est très peu, vous dites ?
Je pense, oui. Je pense que c'est très peu. Il suffit de bavarder avec des châtelains. Leur permanente préoccupation, c'est la fenêtre qui finalement ferme mal, la fuite ici. Faites une promenade avec un propriétaire de château et vous verrez qu'il a l'œil à tout. Oui. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
On n'a pas le temps de se poser, en somme, et Christophe Bottineau. On est tout le temps en train de régler un souci.
Les propriétaires de château, oui, toujours. Ça, c'est évident.
Ils sont en permanence dans l'action. Parce que, de toute façon, à partir du moment où vous avez, si vous avez pu réaliser toute votre restauration de façon idéale, de toute façon, la matière commence à se dégrader. Mmh. Dès que vous avez achevé, vous rentrez dans une phase de dégradation. Nous tendons
c'est quoi
tous
le principal
vers la
poste de dépense ? Bon, il y a la toiture, évidemment, il y a les fenêtres.
Ça se prévoit. La toiture, en général, est prévue sur des dizaines d'années.
Alors, oui, et puis tout va dépendre aussi de la taille et des moyens. Du propriétaire. Hein. On a des propriétaires extrêmement variés. Vous avez parlé de propriétés qui commencent à quelques centaines de milliers d'euros, et c'est formidable, parce que ça donne accès au plus grand nombre. Vous avez des propriétés qui vont jusqu'à plusieurs de dizaines de millions d'euros.
Oui, pas les mêmes budgets.
Ce ne sont pas les mêmes budgets. Pour avoir des clients, souvent des clients étrangers qui vont vous dire « Money is not a problem », alors que d'autres vont vous dire « J'ai 30 000 euros à mettre, ouais. Et qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà. À ce moment-là, on réfléchit, on organise un plan d'action pour trouver ce qui est le plus
Est-ce
judicieux
qu'on a tout
pour sauver.
Est-ce qu'on a froid quand on s'achète un château ? Parce que c'est pareil, le chauffage, ça peut coûter sacrément cher.
Oui, mais le chauffage, ça coûte cher. Alors, c'est un problème qu'on a depuis toujours. Hein. Les Français ont toujours aimé la cheminée parce que c'est convivial, mais ça ne chauffe pas. Alors que les Allemands, au XVIIe et XVIIIe siècle, vous disent « mais les Français sont ridicules, leur cheminée c'est peut-être joli, mais ça chauffe rien, nous on préfère le poêle ». Donc la question du froid, effectivement, est permanente. Mais c'est pour ça qu'on vit parfois dans de petites parties seulement de la maison. Dans la cuisine, dans des pièces proches de la cuisine.
Souvent dans trois pièces au fond du château ou bien sous les toits. Les personnes, enfin les propriétaires de châteaux ne vivent pas dans tout le château. J'ai rencontré des propriétaires de châteaux qui vivaient dans la maison du gardien parce que le château n'est pas viable, n'est pas agréable à vivre.
Oui. On observe aussi, je regardais la hausse des transactions, 40% en un peu plus d'un an sur ces biens, petits manoirs.
Ça fait rêver, c'est tout à fait normal.
Il y a beaucoup d'achats d'impulsion avec des gens qui ne se rendent pas compte de ce que vous évoquez là et des frais que ça engage, et puis du temps, de l'investissement que ça engage. Donc, vous pensez qu'on peut avoir un retournement de marché dans les années qui viennent ?
Retournement de marché, non, je ne pense pas, mais effectivement, si vous prenez 100% des acheteurs à l'année 2021, vous apercevrez qu'un certain nombre vont jeter l'éponge dans les années qui vont suivre. Mais je ne pense pas qu'on aille vers un retournement de marché, parce qu'il y a une tendance de fond, il y a une tendance lourde d'une manière générale.
Mais on n'investit pas dans un château, dans un bien comme celui-ci pour gagner de l'argent, pas pour faire du rendement.
Non, on ne peut pas investir, c'est pas un investissement, on ne peut pas faire du retour sur investissement.
C'est une passion
en revanche,
général.
Alors c'est une passion, et les meilleurs gestionnaires, on en connaît, qui eux-mêmes sont par ailleurs des grands banquiers ou des grands financiers, tiennent leur domaine à l'équilibre, mais au mieux à l'équilibre. Il faut le faire, c'est le cœur qui parle à ce moment-là.
Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des châtelains ont essayé de mettre en place des animations, des activités, parce qu'il faut faire entrer l'argent. Et justement, l'exemple des Guyot est tout à fait intéressant, puisque on a entendu tout à l'heure Michel Guyot, mais avec son frère Jacques, a racheté un château, il a débordé d'imagination pour créer des animations, des Noëls, des fêtes des plantes, des fêtes du cheval, enfin toutes sortes de choses. Et ses enfants, chacun de ses enfants a également acheté un château, chacun avec ses deniers d'ailleurs, en empruntant, et déborde d'imagination pour essayer de faire vivre le monument par passion. Donc les châtelains inventent les escape games, inventent toutes sortes de choses pour faire tenir le château, pour tenir le château.
Ce sont des moyens considérables. À Saint-Fargeau, spectacle historique, on en parlait tout à l'heure, 600 figurants, 50 cavaliers, des effets spéciaux dans tous les sens, 40 000 spectateurs chaque année, sachant que la saison
c'est une réussite,
elle est sur deux mois.
C'est une réussite exemplaire, puisque ça n'a fonctionné depuis 40 ans et jusqu'à aujourd'hui qu'avec des bénévoles.
Ouais. Est-ce qu'on a des aides, Christophe Bottineau, quand on achète un bien comme celui-ci et qu'on s'engage dans des frais de rénovation ?
Oui, bien sûr, vous avez des aides tant de l'État, comme ça a été indiqué tout à l'heure, via les directions régionales des affaires culturelles. Après, vous avez également des conseils généraux, départementaux, pardon, maintenant, des conseils régionaux aussi, qui, selon leur propre politique, vont s'impliquer plus ou moins sur tel type de sujet, sur tel type de propriété.
Donc il faut solliciter, il faut aller chercher de l'argent à droite à gauche.
Exactement, et c'est presque un métier en soi que de chasser les aides possible et de mobiliser les acteurs, de fédérer autour du projet différents acteurs.
Bon, on va se faire rêver pour terminer, parce que j'ai quelques annonces les dernières annonces là, à vendre. Beau manoir en Anjou par exemple, datant du XVIIe siècle, avant d'être remanié par la suite, à la limite du Saumurois, 350 mètres carrés, 11 pièces, 8 chambres, des dépendances, et bénéficie d'un parc, 1 hectare, le prix 640 000 euros. C'est vrai que c'est un peu plus cher que ce que j'évoquais
tout à l'heure. Oui, mais enfin, c'est quand même très abordable et ça fait rêver.
J'en ai un mieux. En Normandie, à Conches-en-Ouche, élégant pavillon de chasse, Louis XIII, édifié en 1660, parfait état, 630 mètres carrés, 20 pièces, dépendant, jardin architecturé, un ensemble clos de murs sur 1,8 hectare, quasiment 2 millions d'euros.
Ah, quand même.
On est dans des biens beaucoup plus chers, là.
Là, c'est déjà plus important, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque les spectacles, les animations, les escape games, effectivement, qui se développent de plus en plus. Et il est formidable de voir ce foisonnement d'idées, parce qu'il faut que tout le monde ait une raison de venir. Alors, des gens ne vont pas forcément s'intéresser au patrimoine, mais c'est l'escape game qui va les faire venir, et puis ils vont tomber amoureux du sujet. Mais maintenant, avec ce déplacement des gens depuis les grandes villes vers les campagnes, Vous avez des espaces de coworking qui commencent à se créer aussi au travers des, dans des lieux comme cela. Il y a d'autres moyens de développer Bien. Et de faire vivre ces lieux.
Merci infiniment d'avoir parlé de cette sauvegarde du patrimoine et de ce marché particulier. C'est vrai qu'on en parle peu. On était content de vous faire partager, à vous, amis auditeurs, cette thématique. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans un instant. Les archives, 18h51. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les archives dans le Club des Idées, comme chaque soir, 19h53. 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle Le Jour.
Le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir, Lord d'Autriche.
Bonsoir.
Alors, ce soir, avec vous, on va remonter en 88, 30 juin précisément, quand un évêque français, Monseigneur Lefebvre, a été excommunié, exclu de l'Église catholique par le pape.
Oui, il a refusé de se soumettre au pape. Monseigneur Lefebvre avait consacré 4 évêques sans l'autorisation du pape, justement. Alors, c'est la vision de 2 églises qui s'affrontent dans cette affaire. Le Vatican, qui alors veut faire évoluer l'Église avec son temps, et puis Monseigneur Lefebvre, qui lui est attaché à une Église plus traditionnelle, traditionnaliste même, avec de l'ordre et de l'autorité. Alors à l'origine de ce schisme, il y a donc ce choix personnel de Monseigneur Lefebvre d'ordonner 4 personnes évêques contre l'avis du pape, cérémonie racontée à l'époque par le reporter d'Europe 1, Jean-Pierre Montanet, présent sur place.
Tous les fastes de l'ancienne liturgie, messe énoncée en latin, mitre sur la tête, chasuble doré sur les épaules, Monseigneur Lefebvre, appuyé sur sa crosse d'argent, avait sacré les 4 évêques en faisant fi du mandat apostolique. Instant historique, le schisme était consommé. Allergique au modernisme de l'Église conciliaire, il a prôné le retour à la tradition tout en se défendant avec cette cérémonie de provoquer la rupture.
Nous ne sommes pas des schismatiques. Il n'est pas question pour nous du tout de nous séparer de Rome et de nous soumettre à un pouvoir quelconque étranger à Rome.
Il dit cela, Monseigneur Lefebvre, il n'est pas question de nous séparer de Rome, mais il sait parfaitement, évidemment, qu'il sera excommunié après cette cérémonie. Et ce jour-là, il y a 7000 personnes dans la foule, des fidèles traditionalistes qui le soutiennent.
Que les évêques français continuent, qu'ils fassent la même chose. Et c'est ça qu'on demande, on veut un catéchisme, on veut des prêtres qui nous disent qu'il faut aller se confesser, qu'il faut communier, que la messe est quelque chose d'important et pas n'importe quoi.
Et aussitôt sacré évêque, donc ils sont excommuniés par Rome, de même que Monseigneur Lefebvre, comme l'exige le droit canon.
Oui, le pape Jean-Paul II avait pourtant essayé d'éviter tout cela.
Ah ouais, absolument. Le 29 juin, la veille de ce jour fatidique, Jean-Paul II effectue une tentative ultime pour récupérer cet évêque dissident. Il envoie chez lui un jeune prélat chargé d'amener Monseigneur Lefebvre illico à Rome pour une entrevue avec le pape. L'évêque français décline l'invitation. Le lendemain, il sacre les évêques et se voit donc excommunié par le Vatican.
Et Monseigneur Lefebvre, quel est son parcours, son profil ?
Alors, il est formé dans la tradition, sensible aux idées nationalistes, contre-révolutionnaires de Charles Maurras, anticommunistes dès la première heure, hostiles à la décolonisation, futur admirateur des régimes dictatoriaux d'Argentine et du Chili. Il reste fidèle à sa ligne ultra-conservatrice. Et quelques jours avant d'être excommunié, d'ailleurs, le 16 juin 1988, il expliquait qu'il avait 83 ans, et qu'il lui fallait ordonner de nouveaux évêques pour faire vivre ses séminaires, ceux qui sont sous sa tutelle, qu'il lui fallait un successeur.
J'ai un choix à faire, ou bien mourir et laisser mes séminaires comme cela dans l'abandon, laisser mes séminaristes orphelins, ou bien faire des évêques. J'ai pas le choix.
Faire des évêques, j'ai pas le choix, dit-il. Monseigneur Marcel Lefebvre meurt 2 ans plus tard, en 1991, à l'âge de 85 ans. Et en 2009, vous en souvenez peut-être, le pape Benoît XVI lèvera l'excommunication qui pesait depuis 20 ans sur les 4 évêques ordonnés par Monseigneur Lefebvre, faisant par ce geste-là une importante concession aux traditionnalistes, en accordant à tous les prêtres la possibilité de célébrer la messe partout, selon l'ancien rite fixé dans l'Église catholique en 1962.
Merci infiniment, Lord d'Autriche, pour ce récit.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, vous restez avec nous. Lionel Rousseau dans quelques secondes pour la soirée foot. Salut Lionel.
Salut Julien.
Bon, quel est le programme ce soir de l'émission?
Pas de match, vous le savez. Demain, quart de finale très intéressant entre la Belgique et l'Italie. On va en parler un petit peu, mais on va revenir aussi sur l'échec de l'équipe de France avec nos invités, nos experts, bien sûr. Aline Riera, Guy Roux, Nabil Djellit, Marc Libra. Mais parmi nos invités, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Bilger, magistrat honoraire mais grand passionné de football, mais également un certain Alain Giresse qui va nous donner son sentiment sur la situation des Bleus, lui qui a tout connu et connu le plus grand évidemment avec le maillot de l'équipe de France.
Bien, et puis beaucoup d'infos coulisses sont aussi sorties depuis 24 heures.
Absolument.
Sur le climat autour de cette équipe de France.
On l'évoquait hier soir, ouais. Et on en reparlera aujourd'hui. En effet, ça dénote de beaucoup de choses et effectivement ça transpire, ouais, de l'état d'esprit du groupe malheureusement en coulisses mais également sur le terrain.
Bien, on sera au rendez-vous évidemment comme chaque soir avec vous Lionel.
Merci.
À tout de suite. 19h58, Julien Pierce pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À demain, 18h.